Voilà, bien-aimés, c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu ce matin avec vous et qu'on puisse s'entretenir des choses célestes. Et j'espère que ça va être le cas. C'est vrai qu'il est plus facile lorsqu'on vit sur cette terre de spontanément prendre plaisir dans des bons petits plats, surtout quand on est français, hein, la cuisine française est très connue dans le monde entier, que d'apprécier la parole de Dieu, un pain qui est spirituel, qui est céleste. Et pour ça, effectivement, il nous faut naître, comme dit Jésus, d'eau et d'esprit. Il nous faut naître de nouveau, et c'est ça la conversion, c'est la repentance, c'est la nouvelle naissance, qui nous fait après apprécier une chose spirituelle encore plus qu'une chose matérielle, qu'une chose physique. Et c'est à ça qu'on doit tendre, je veux dire, on a reçu, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui ont reçu vraiment cette nouvelle naissance, qui sont nés de nouveau, qui ont reçu cette semence de Dieu dans leur cœur, eh bien, on doit effectivement marcher dans la sanctification pour justement être de plus en plus libérés, et parce que c'est la liberté, hein, la sanctification, j'allais dire, le fait d'être, que le Seigneur, ben, il nous détache de plus en plus de ce monde, des choses de ce monde, c'est pas pour faire de l'ascétisme. C'est au contraire pour être encore plus libre, parce que c'est celui qui n'est pas attaché à ce monde qui est l'homme et la femme la plus heureuse et la plus libre qui puisse exister. Mais ça, on l'est en Christ, on l'est par la grâce et par le Saint-Esprit qui œuvre en chacun de nous. Et c'est pourquoi, ô combien j'ai à cœur qu'on puisse tendre, comme le peuple de Dieu, à aimer cette parole, à aimer ce pain du ciel, même si on ne peut pas le manger autant que peut-être un bon petit plat, qu'on a un grand cuisinier parmi nous, Lucien, mais que des choses justement physiques, que des choses matérielles. Et même que ce soit même dans les vagues, dans les choses matérielles, les biens, c'est pas seulement la nourriture, ça peut être toute chose où ben, on va avoir ce sentiment de possession, on va vouloir, voilà, même s'enrichir, etc., être bien, avoir du confort, mais que par-dessus tout cela, au-dessus de tout cela, eh ben, on puisse aimer Dieu, aimer sa parole, aimer les choses spirituelles, les choses d'en haut. La Bible dit, et Paul en parle dans l'épître justement aux Colossiens, d'aspirer aux choses, de s'attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pas celles qui sont sur la terre, comme dit Jésus, elles vont passer. Il y a la rouille, il y a les voleurs, il y a etc. Aujourd'hui, vous avez beau acheter la dernière voiture qui soit ou le dernier iPhone, iPad, 3-4 mois plus tard, et encore, je suis gentil, il est déjà démodé, il est déjà dépassé, il y a déjà un nouveau modèle et vous êtes déjà obligé d'en racheter un. Et déjà, vous voyez, le monde, il nous fait courir sans cesse. On est des éternels insatisfaits si on court après le monde. Mais même aussi si on court après l'amour dans ce monde. Parce qu'on peut courir après les biens matériels, mais même, et je le sais, on vit dans un monde brisé, on vit dans un monde de haine, et qu'il y a tellement de carences au niveau affectif, au niveau de son cœur, et combien on est un monde qui court aussi après l'amour. Mais si on le cherche dans les hommes, on sera toujours déçu. Si on le cherche même dans un mari, dans une femme, dans un conjoint ou une conjointe, il faut qu'il y ait le Seigneur qui prime. Ma femme, mon épouse, peut pas me donner l'amour dont j'ai besoin. C'est impossible. On peut vivre une belle histoire ensemble et on s'aime de tout notre cœur. Mais et pour elle et pour moi, ce qui doit être le premier, si on veut vivre heureux, c'est le Seigneur. C'est effectivement apprécier plus l'amour de Dieu que l'amour d'une femme ou que l'amour d'un homme, ou que l'amour d'un ami, d'une amie, ou de la famille, de nos enfants, de nos parents, ou je ne sais quoi. Ben sinon, on sera toujours insatisfait, on aura toujours des déceptions, on aura toujours des cassures, des brisures, des blessures. Mais avec Dieu, on ne sera jamais blessé, on ne sera jamais insatisfait. Il est celui qui peut nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et il nous fait aussi nous changer, il nous transforme aussi, parce qu'il veut aussi nous libérer, comme on en parlait au début, de cette nature qui sera elle aussi toujours insatisfaite. Parce que oui, on peut courir après des choses et on ne le trouvera pas dans les hommes, on ne trouvera pas ces choses de manière terrestre, on les trouvera que dans le Seigneur, que par l'amour de Dieu. Et en même temps, eh ben aussi, on a besoin, par la grâce du Seigneur, de lâcher cette nature qui sera jamais aussi contentée, qui sera toujours cet enfant gâté et qui aura toujours besoin de plus, toujours besoin d'autre chose. Mais quand on rencontre l'amour de Dieu, alors, comme le dit Jésus, on n'aura plus jamais faim, on n'aura plus jamais soif. Jésus dit à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, si l'eau que je te donne, tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. C'est quelque chose de merveilleux. Et qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, je crois que c'est des paroles qu'on doit toujours découvrir, qu'on doit découvrir chaque jour plus. Et c'est pourquoi j'étais pas parti, et on va lire le passage que j'avais à cœur qu'on médite ce matin, mais j'avais à cœur justement de partir dans le fait de nous interpeller pour aimer cette parole de Dieu, pour aimer le Seigneur comme tout à nouveau, quand bien même il est spirituel, quand bien même on peut peut-être pas encore vraiment le toucher, le voir physiquement et concrètement. Et j'ai envie de dire en même temps, si on adore Dieu, si on le cherche, alors il nous visite, alors on le sent. Justement, on le sent physiquement, on le sent dans nos cœurs, on le sent dans nos entrailles et dans nos tripes. Non pas qu'on cherche des sensations fortes, parce que Dieu, il n'est pas forcément dans les sensations fortes. Mais en même temps, il sait de quoi on est fait et il vient bouleverser nos êtres. Il vient toucher le plus profond de nos êtres et de nos entrailles et de ce qu'on est. Et ça, il sait le faire et il est le seul à pouvoir le faire. Et aucun homme, aucune femme, rien dans ce monde ne peut bouleverser nos êtres comme Dieu peut le faire et veut le faire afin qu'on lui appartienne et qu'après justement, on n'ait plus à courir après les sensations fortes, mais qu'on sache qu'il est Dieu et qu'on marche avec persévérance, avec patience, avec amour, avec zèle, tous les jours de notre vie, étant renouvelés par le Saint-Esprit dans notre marche de chaque jour, en mangeant cette parole, en mangeant ce pain. Et c'est la parole de Dieu, ce pain, mais en même temps, c'est la prière, c'est le Saint-Esprit, c'est la communion fraternelle. Tout ça, c'est le pain que Dieu veut que nous mangions chaque jour. Alors, j'aimerais que l'on prenne la première épître de Jean, au chapitre 3, et au verset 1 et suivant. Quelques versets que j'aimerais que nous méditions ensemble ce matin. 1 Jean 3, verset 1 et suivant. Ce pain du ciel nous dit ce matin, et nous voulons le manger, et qu'il puisse nous nourrir, nourrir nos cœurs, nourrir nos vies. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Dans ces trois versets, vous avez, je dirais, un résumé de la vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. Vous avez d'abord dans ce verset 1, l'amour du Père manifesté en Jésus-Christ. Voilà l'amour que Dieu a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ce n'est pas un petit témoignage. Ce n'est pas un amour à l'eau de rose. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas, j'ai envie de dire, parce que des fois, non pas que le terme catéchisme soit mauvais en soi, mais c'est un peu ce que les gens parfois portent dans leur vie, de dire oui, voilà, j'étais au catéchisme, j'ai eu mon instruction religieuse. Mais c'est pas ça le témoignage de Dieu. Le témoignage, c'est le sang de son Fils. C'est le sang de son unique. C'est le sang d'un agneau sans tache, pur, sans défaut, innocent, qui n'avait pas péché, dans lequel il n'y avait aucun péché. Lui-même, il est mort, il s'est livré dans les mains de pécheurs, dans les mains, comme vous le lisez, lisez la Passion, lisez le récit justement des souffrances de Christ. Il s'est livré justement à cette autorité religieuse qui était justement les pharisiens de l'époque, le Sanhédrin, et en même temps après qu'ils l'ont livré aux Romains, et il s'est livré dans les mains de ces pécheurs, dans les mains de ces gens qui étaient des gens qu'on n'aimerait pas du tout, nous-mêmes spontanément, vous voyez peut-être. Des gens peut-être aussi qu'on croise dans nos vies de chacun, des gens qui nous ont peut-être même fait du mal. Mais entre les mains de ces gens, l'agneau de Dieu, il s'est livré, il s'est donné et il n'a rien dit. Et ce n'est pas qu'il était comme nous, encore pécheurs, encore justement dans cette nature et des êtres de poussière et de cendre qui ne font que passer, qui ne sont qu'un souffle. Lui, il était le Fils de Dieu, sans tache, sans péché, sans rien, et il s'est pourtant livré aux mains de pécheurs. Et il est allé jusqu'à la mort, et même à la mort de la croix, comme le dit Paul, le plus grand et le plus abominable des supplices de l'époque, c'était la chose la plus humiliante qui soit que d'être crucifié au temps de Jésus. Et le Fils de Dieu, il a pris ce moyen, Dieu a choisi ce moyen pour nous témoigner de cet amour. Combien il nous enseigne, combien qu'on le connaisse ou qu'on ne connaisse pas le Seigneur, qu'on soit chrétien ou pas, c'est un amour qui a de quoi nous faire fondre, de quoi nous faire nous bouleverser. Et comme on en a parlé dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, on a parlé justement de cette dimension horizontale de la croix. Il y a la verticale qui est cet amour manifesté dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Mais après, il y a cette dimension horizontale qui est le fait d'aimer ceux qui nous ont fait du mal, de bénir nos ennemis. Et à la suite de Jésus, à la suite de ce que le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous le disions, nous ne pouvons pas prier le Notre Père sans pardonner. Parce que la prière d'un enfant de Dieu, c'est ce Notre Père. Et qu'est-ce que le Notre Père dit ? Pardonnez à ceux qui vous ont offensés, alors comme je vous ai pardonné, alors je vous pardonnerai. On avait lu ces versets aussi dans l'évangile de Matthieu, que Jésus et le Père pardonnent selon notre pardon qu'on témoigne aux autres. Et c'est pourquoi cet amour, eh bien, il a de quoi encore bouleverser chacune de nos vies et veut nous amener plus loin avec le Seigneur. Et après, dans la suite de ce passage, nous avons « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Et c'est vrai que comme on le priait, toute notre espérance, c'est que le plus grand nombre le connaisse. Pas pour être d'accord avec nous. Moi, j'ai pas besoin qu'on soit d'accord avec moi. J'ai pas besoin. Parce que je sais en qui j'ai cru, comme dit Paul. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Je sais qu'est-ce qui brûle en moi. Et je sais que c'est pas juste que j'ai fait un choix parmi d'autres religions, que j'ai pas dit, ah tiens, ça, ça vaut mieux que ça. Ah, tiens, ça, ça me parle plus. Ça correspond plus à ma sensibilité. Non, c'est pas que ça correspond à dû à quelque chose de ma sensibilité ou à moi-même. C'est que le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, il m'a visité. Il est venu en moi et je sais qu'il est vivant. Et rien ni personne ne peut m'enlever maintenant ce témoignage. Et c'est pas du coup que j'ai choisi, que j'ai, au bout d'une certaine réflexion et déduction, j'ai pu savoir que oui, c'était quand même le christianisme qui était la meilleure des religions. Et c'est pourquoi ce n'est pas une religion que nous prêchons, mais nous prêchons un Dieu vivant, que tu peux, que nous pouvons chacun de nous rencontrer, que ce monde peut rencontrer. Et c'est pourquoi, s'il ne nous connaît pas, s'il ne connaît pas cette espérance qui est en nous, ben c'est qu'il n'a pas connu le Seigneur, c'est qu'il n'a pas encore connu Dieu. Mais notre prière, c'est que le plus grand nombre puisse le connaître, afin qu'ensemble, comme nous, même ce matin, ensemble, on se connaisse les uns les autres. Même si on vient d'horizons différents, même si on s'est croisé que quelques fois, il y a un lien, il y a un amour, mais qui est tellement plus fort que justement les liens même du sang et de la chair, que même moi, ma maman ce matin, elle n'est pas là. Mais pourtant, j'ai des mères aujourd'hui. Et c'est pas que je renie ou que je méprise ma mère. Non, combien je l'honore. C'est grâce à elle que je suis là. Et grâce à Dieu, bien sûr, d'abord. Mais aussi grâce à elle. Et je lui dois tout. Elle m'a allongé, elle m'a changé, elle m'a nourri, elle a pris soin de moi durant tant d'années. Et combien on doit honorer nos parents. Mais en même temps, on a un lien encore plus fort, spirituel. Vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait au début, que le spirituel, que Dieu, eh ben, c'est plus fort que tout. Et c'est pourquoi ma maman, aujourd'hui, elle peut décéder. Et je l'aime, et ça me fera mal si tout à coup, je ne devais plus jamais la revoir. Mais ce que Dieu veut, c'est que je m'attache à celui qui ne mourra jamais, à celui qui est éternel. Non pas pour laisser de côté ma mère, mais pour dire... La seule chose qui va demeurer, qui était, qui est et qui vient, c'est le Seigneur. Lui seul est éternel. Et si nous voulons vivre éternellement, si nous voulons participer au règne de Dieu, si nous ne voulons pas voir la mort, non pas pour sauver notre peau, mais parce que nous aimons Dieu, parce que nous avons compris que c'est lui la vie, que en lui il y a tout le bonheur, il y a tout ce qu'un homme peut désirer, il y a toute chose en lui, eh ben on va avoir à cœur de s'attacher d'abord à Dieu. Et pas à ces choses de la terre. Et on va vouloir justement que cette vie, eh ben, soit communiquée à tous ceux qui nous entourent. Et il poursuit au verset 2 en disant, Jean, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et ça, on l'a aussi prié. Ça fait partie de la marche vraiment chrétienne, une authentique vie chrétienne qui aujourd'hui malheureusement est remise en question dans bon nombre d'églises, mais c'est cette marche vers l'éternité, vers le retour du Seigneur. Comme il le dit, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Hein. C'est que justement, il y a encore, on est des êtres de chair, peut-être qu'on marche dans la rue, les gens ne voient pas forcément tout de suite la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Malheureusement, je pense qu'il devrait l'avoir d'autant plus, et c'est peut-être aussi dû à l'état de l'Église d'aujourd'hui, mais on doit tendre à être toujours plus ses lumières, à ce que les gens voient la différence entre nous et quelqu'un qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas de Dieu dans le monde, de voir l'amour, cette eau vive qui jaillit de nos cœurs pour que les gens aient soif de s'approcher, non pas d'un homme, de quelqu'un qui a une grande éloquence, mais de Christ crucifié, de celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Et effectivement, on va marcher et on marche vers cette manifestation de ce que nous serons vraiment. Nous sommes justement en espérance ces enfants de Dieu. Nous le sentons dans nos cœurs, mais en même temps, ça n'a pas été encore pleinement manifesté. Et alors, nous serons semblables à lui, comme le dit Jean, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et c'est quelque chose qui me travaillait ce matin en priant, de dire, mais Seigneur, combien c'est fou que justement le monde soit tellement fermé, qu'un cœur soit tellement fermé, pourtant à ce que tous vont voir, à ce que tout le monde va voir Dieu, tout le monde va paraître devant Dieu, qu'on le veuille ou non, qu'on dise oui ou non, qu'on dise je suis d'accord ou je suis pas d'accord, ou ça me plaît, ça me plaît pas trop. Dieu, soit on le prend en entier, soit on le prend pas. On le prend pas à moitié, on le prend pas à un tiers, à deux tiers ou un quart. On le prend entièrement. Et c'est là où justement cet homme Dieu, qui est par excellence aujourd'hui en train de vivre et de faire son royaume sur la terre, cet homme du 21e siècle, ben justement il s'élève et il veut prendre la place de Dieu et s'asseoir justement aussi dans le temple de Dieu. Il veut être Dieu, il veut être celui qu'on adore. Et il se prosterne devant l'ouvrage de ses mains. L'homme se prosterne devant ce qu'il fait et il dit « Waouh, que c'est bon ce que j'ai fait ». Et Dieu est mis à la porte de nos sociétés, Dieu est mis à la porte de nos familles, de nos foyers, et on s'étonne après pourquoi ça va mal. Et alors on va en rendre responsable Dieu, on va dire « Mais Dieu, si tu étais Dieu, pourquoi est-ce que justement il se passe ça dans ma vie ?» Mais c'est parce que tu as, c'est parce que nous avons mis Dieu hors de nos vies que nous sommes aujourd'hui dans cet état-là, que nous sommes aujourd'hui justement des hommes brisés, des femmes brisées, blessées. C'est à cause du péché, c'est à cause que Dieu ne règne plus sur nous. Alors que nous puissions justement à la suite de Jean encore invoquer ce règne et vouloir, comme il termine par dire au verset 3, « Quiconque a cette espérance du royaume de Dieu, de la vie éternelle en lui, se purifie comme lui-même est pur. » Et qu'on doit marcher justement dans cette direction, se purifier comme lui-même est pur. Voyez au combien le salut n'est pas quelque chose qui nous laisse oisif, qui est quelque chose qui nous laisse comme ça, et on le voit aussi ce que dit Jean, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et j'ai dit ce que nous sommes, mais ce n'est pas tout à fait juste, c'est ce que nous serons. Nous le sommes, j'ai envie de dire en espérance, nous le sommes, j'ai envie de dire en fond de nos cœurs, mais en même temps, ce n'est pas complètement fait, ce n'est pas complètement là. Et c'est pourquoi il y a une certaine tension, il y a une certaine marche justement, une certaine le fait de veiller, le fait de prier, Jésus nous en parle au combien, et bien de voir qu'on doit se purifier comme lui-même est pur pour marcher à sa suite et pour effectivement, lorsqu'il paraîtra, être semblable à lui parce qu'on le verra tel qu'il est. Et c'est notre espérance. Et que le monde soit d'accord ou que le monde ne soit pas d'accord, ça ne changera rien à la finalité. Et combien je sentais en moi ce feu de cette espérance, cette conviction, cette rage, cette bonne rage, vous voyez, cette sainte rage pour le royaume de Dieu, de dire « Mais Seigneur, moi je ne veux pas regarder à ce monde, je ne veux pas regarder à cette façon de penser, à cette façon de réfléchir. » Et ça c'est tout à fait aussi très français, même si les Français ne sont pas forcément les plus grands pécheurs du monde, on est tous pécheurs, bien évidemment, mais on est des dignes héritiers de Descartes. Et qu'est-ce qu'a dit Descartes? Il a dit l'opposé de ce que dit la parole de Dieu. Ça a été, j'ai envie de dire, un coup de tonnerre dans, j'ai envie de dire, l'histoire humaine, même si Descartes, il y en a eu d'autres, hein, il n'y a pas eu que lui. Mais il a dit « je pense, donc je suis ». Alors que Dieu a dit « je suis ». Et qu'en hébreu, le verbe « être », il n'existe pas pour les êtres humains. Il est réservé à Dieu. Et pourtant, vous avez un être humain qui a dit « je pense, donc je suis ». Donc qui a proclamé l'opposé de la parole de Dieu, l'opposé de Dieu. Et ce mystère, cet esprit de l'Antéchrist, ô combien nous en voyons une si grande manifestation au jour d'aujourd'hui, c'est dans le cœur de chacun de nous d'abord. C'est le fait d'être parce qu'il pense, d'être parce qu'il raisonne, d'être parce qu'il ressent ça, ou parce qu'il a cette sensibilité-là, ou parce qu'il en a une autre, ou parce qu'il vient de tel pays, ou parce qu'il vient de tel autre. Mais ça, il faut qu'on se rende compte que Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est Dieu. Et après, l'homme, Eh bien, il s'adapte. Ce n'est pas Dieu qui s'adapte à l'homme, mais c'est nous qui venons à lui et du coup qui sommes purifiés, qui sommes libérés. Et ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, qui est quelque chose qui va nous faire mal. C'est pour notre bien. Et c'est ça que souvent on a de la peine à accepter, de la peine à comprendre, que c'est pour notre bien. Que l'œuvre de la sanctification, l'œuvre de liberté que le Seigneur veut faire dans une vie, c'est pour notre bien. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on va lire. Et combien on est fou de préférer, justement, à l'image d'un Ésaü, et il est cité en exemple, dans l'Épître aux Hébreux, de dire pour un plat, justement, lui, pour une nourriture terrestre, et il a méprisé, il a son droit d'aînesse, il l'a vendu à son frère Jacob, en disant, à quoi ça me sert d'être un aîné, alors qu'il était un aîné dans la généalogie sainte du Seigneur et du peuple élu, et il a méprisé ça. Et après, même s'il a voulu le récupérer et s'en repentir avec larmes, c'était trop tard. Et c'est pour combien nous, le monde veut que nous pousser à mépriser les richesses insondables et incommensurables de Dieu pour un plat terrestre de nourriture, ou alors un bien, ou alors même un homme, ou alors une femme, ou une famille. On va sacrifier Dieu pour quelque chose qui va nous contenter sur le moment et instantanément. Et nous vivons, nous sommes des purs produits de cela, et c'est pourquoi en Christ, on doit se purifier comme lui-même est pur, parce que notre espérance, elle n'est pas d'ici, elle est de là-haut, et nous le verrons, et si le monde ne veut pas le savoir et veut nous proposer un paradis terrestre et des choses qui veulent nous contenter, nous donner comme c'est cette jouissance, cette gloire passagère du monde à la place pour nous faire renier et mépriser cette gloire éternelle, il faut qu'on fixe nos yeux vers cette gloire éternelle et savoir que nous nous appuyons sur quelque chose de ferme, de solide, quand bien même, peut-être des fois, on aimerait peut-être plus le toucher concrètement, parce que comme Thomas, on a peut-être encore envie de dire, mais moi je croirais seulement si je le vois, si je le touche. Mais Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais qui croient par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on a besoin de prendre du temps dans la parole de Dieu, on a besoin de prendre du temps dans sa présence, pour là comme le toucher, spirituellement, mais le toucher tellement concrètement, tellement puissamment que même si on pouvait le toucher, j'ai envie de dire matériellement, ça ne changerait rien pour nous. Et c'est ce que Jésus voulait pour Thomas, de dire ça doit rien changer pour toi de me toucher ou pas. Tu dois croire en moi et tu dois marcher avec cela. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 et suivant, Paul parle, et je le dis tout de suite, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et voilà ce que je voulais aussi vous lire et ce dont on parle en ces instants. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 et à 18. Et combien cette espérance, Paul nous exhorte à ce qu'elle soit vraiment dans les cieux. Et même si on est né de nouveau, même si on a connu Dieu, je confesse et je demande au Seigneur de toujours plus m'approcher de lui pour pouvoir, à l'image d'un Paul, être toujours plus fixé sur ces choses éternelles. Parce que même si je suis né de nouveau et que je crois que cette parole, c'est la vérité, même si après on a ce fondement, ça ne veut pas dire qu'on s'attache forcément aux choses d'en haut comme ça, naturellement. On a besoin, oui, de marcher à la suite du Seigneur, de marcher dans la sanctification et voir que l'affliction, les souffrances, elles doivent au contraire de nous renfermer, au contraire de nous éloigner de Dieu. Elles doivent nous pousser vers Dieu. Et c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, que même Jésus, tout fils de Dieu qu'il a été et qu'il est encore aujourd'hui à sa droite, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même Jésus, pour obéir à Dieu, pour s'attacher à cette volonté de Dieu, c'est aussi les choses qu'il a souffertes qui lui ont permis d'aller jusqu'à Gethsemane. Et nous aussi, si on veut aller jusqu'à Gethsemane, et il le faut, bien-aimés, nous devons être prêts à aller jusque-là. Nos frères, et on prie pour eux, nos frères bien-aimés, qu'ils soient en Chine, qu'ils soient dans les pays musulmans, qu'ils soient en Algérie, qu'ils soient je ne sais où ils payent de leur sang et de leur vie leur foi en Christ. Nous devons être prêts à aller jusqu'à Gethsemane. Mais pour être prêts à Gethsemane, il faut qu'on voit tout ce qui nous arrive aujourd'hui, les souffrances, les brisements, les humiliations, les choses comme ça, elles nous servent à aller jusque-là. Elles nous servent à obéir et à voir qu'on ne veut plus regarder aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mais parce qu'on est encore dans ce corps de chair, notre tendance naturelle, comme on le disait en introduction, c'est de plus apprécier un bon plat cuisiné que des fois de lire la parole de Dieu. Et du coup, qui va nous faire justement apprécier plus et regarder plus aux choses visibles, mais pas à celles qui sont invisibles. Parce qu'elles sont invisibles. Mais si on est chrétien, c'est qu'on est né d'en haut, c'est qu'on est né du ciel. Et le ciel, justement, ben, on ne peut pas encore le voir physiquement, mais on doit s'y attacher. Et ma prière, c'est cela, qu'on soit renouvelé dans cette espérance ce matin, qu'on soit renouvelé dans cette marche avec le Seigneur, parce qu'il vient et qu'on se rend compte du témoignage qu'il a donné en son Fils Jésus-Christ, et qu'on ne se fie plus à ce que dit le monde, à ce que pense le monde, ou à être des dignes héritiers de Descartes, mais on se fixe sur Christ, on se fixe sur ces choses invisibles. J'aimerais partager encore avec vous un verset dans la première épître aux Corinthiens, un petit peu plus avant, nous étions dans la deuxième, nous allons dans la première, au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, verset 50 et suivant. C'est ce long chapitre où Paul parle de notre espérance qui est quoi ? La résurrection des morts. C'est vrai qu'il n'y a qu'une chose que l'homme n'a pas encore pu faire dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est effectivement pouvoir ne pas mourir. C'est le grand rêve, j'ai envie de dire, de toute l'humanité, depuis qu'elle existe. Effectivement, c'est cette peur de la mort. Soit on la glorifie parce qu'on croit qu'on va se réincarner, qu'il va se passer mille et une choses après, mais en même temps, c'est parce que foncièrement, elle fait peur. Elle fait peur au fond de l'être humain, elle fait peur, la mort. Et c'est parce qu'on ne peut pas y échapper. Et c'est pourquoi, justement, Dieu veut qu'on connaisse qu'il est celui qui ressuscite les morts, qu'il est le Fils de Dieu qui est ressuscité d'entre les morts, et que c'est notre espérance, et que nous ne verrons jamais la mort si nous croyons en lui. Et c'est ce que Paul parle en abondance dans ce chapitre 15, mais j'aimerais qu'on lise la fin de ce chapitre 15, verset 50. « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Et ça veut dire justement que ce corps de chair dans lequel on est, eh ben, s'il n'y a pas cette nouvelle naissance qui se fait en nous, s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui vient nous donner la vie d'en haut, eh ben, on ne pourra pas vivre éternellement. On ne pourra pas ressusciter. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi, justement, ben, d'autres religions parlent de réincarnation, parlent de cycles, parlent de mille et une choses. Mais le seul Dieu qui ressuscite les morts, et le seul qui fait qu'on peut échapper à la mort, qui est, comme on le lira ensuite dans ces derniers versets, le fruit et la conséquence du péché, c'est seulement Christ. Il n'y a qu'un qui est mort pour nos péchés. Et c'est parce qu'il est justement mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'on peut nous aussi ressusciter. S'il était juste mort, puis il a dit, voilà, je meurs pour vous, etc. Mais moi, je peux vous dire ça aujourd'hui, me suicider, et est-ce que pour autant vous aurez le salut en moi ? Mais Jésus était le Fils de Dieu. Il était sans péché, il est mort et il est ressuscité. Amen. Ce qui est la preuve que Dieu a pardonné, que Dieu a agréé le sacrifice et que si on place et on met notre foi en lui, on va aussi ressusciter d'entre les morts. Mais Bouddha n'a pas fait ça, Mohamed n'a pas fait ça, peu importe, ni aucune philosophie, ni personne, ni un mari, ni mon épouse, ni moi pour elle, je ne peux faire ça. Je peux dire je t'aime et je vais mourir pour toi. Et voilà, alors je vais aller mourir, je vais me suicider, mais ce n'est pas pour autant qu'elle sera un plus sauvée qu'aujourd'hui. Elle doit voir Jésus, elle doit regarder à lui, elle doit marcher pour lui, elle doit avoir sa foi en lui. Pareil pour mes enfants, c'est pas parce que je les aime qu'ils vont être sauvés, mais ils doivent connaître Jésus, ils doivent connaître ce sacrifice et cette résurrection qui fera qu'ensemble on va ressusciter ensemble au dernier jour, qu'on va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quelle espérance, bien-aimée, c'est extraordinaire. Paul poursuit en disant, voici, je vous dis un mystère. C'est vrai que c'est un mystère, et ça dans la parole de Dieu, un mystère, c'est justement pas Descartes qui peut comprendre un mystère, c'est pas possible. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Donc il parle, nous, si on est vivant lorsque le Seigneur va revenir. Il y aura les morts qui nous précéderont, mais ce sera quasiment en même temps. Et ensuite, les vivants, ceux qui seront là lorsque le Seigneur reviendra, on sera changés. Car il faut que ce corps corruptible, hein, qu'on a encore au jour d'aujourd'hui, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qu'effectivement, le seul capable d'engloutir la mort, c'est Christ qui l'a fait par sa mort et sa résurrection. C'est Dieu, c'est le Dieu d'Israël et c'est le Dieu de la Bible. Et c'est pourquoi, effectivement, il faut que ce corps qu'on a encore, qui est corruptible, puisse être changé, transformé. Alors on aura un corps comme Christ, comme lorsque les disciples l'ont croisé après la résurrection. Ils pouvaient même manger pour leur montrer que, justement, ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas un esprit, mais c'était quelque chose, vous voyez, c'était concret. Et le corps qu'on va avoir, qui va se changer, qui ça va se transformer, ça va être concret. C'est vrai qu'on a dans notre pensée, des fois occidentale, que spirituel, ça veut dire immatériel. Mais ça, ce n'est pas vrai, ça nous vient de la Grèce. Dans la parole de Dieu, et aujourd'hui même pour nos frères juifs, spirituel, ça ne veut pas dire désincarné, vous voyez. Et c'est pourquoi Jésus a mangé avec ses disciples sur le bord du rivage. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera asservi en étant dans ce corps transformé, dans ce corps glorieux, aux choses matérielles et physiques comme on l'est aujourd'hui. Jésus, il se déplaçait, il n'avait pas besoin de prendre la voiture, de marcher ou de faire quoi que ce soit. Nous aurons ce corps transformé. Mais ça ne veut pas dire que ce sera une espèce de fantôme. Notre Dieu, il est concret. Notre Dieu, il faut s'attendre à lui concrètement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a toute une tendance, même au niveau de l'Église, à spiritualiser les choses. À dire, voilà, non, même la parole de Dieu, il ne faut pas la prendre littéralement. Il faut spiritualiser, ça a une signification un peu obscure. Alors que non, il y a bien sûr des choses qu'on ne peut pas tout savoir. Il y a des mystères qui nous seront révélés qu'au temps de la fin et que même dans la gloire du Seigneur. Mais en même temps, ça ne veut pas pour autant dire que ce que la Bible dit, elle le dit, et ça va s'accomplir à la lettre, comme on le voit avec Israël de nos jours, qui est de retour sur sa terre, combien de nombreuses prophéties en parlent, et combien il y a d'autres choses qui se matérialisent, qui se concrétisent. Et c'est pourquoi ce corps, même si aujourd'hui on n'arrive pas à le conscientiser, à le réfléchir, mais c'est normal, ne soyons pas des Descartes, mais puissions-nous nous approcher de Dieu dans le mystère. Et que par l'Esprit de Dieu, on ait cette foi dans nos cœurs, on ait cette conviction. Et vous verrez, ça va s'accomplir, nous le verrons. Et ceux qui n'y croient pas aujourd'hui, le verront comme les autres. Mais malheureusement, tant que vous êtes aujourd'hui, nous ne devons pas endurcir notre cœur, mais y croire, mettre notre foi en lui, mettre notre foi non plus en Descartes, mais en Dieu qui est le seul qui est. Alors nous aurons cette vie, alors nous serons libérés, délivrés, et nous pourrons marcher comme lui-même a marché. Et c'est ce qu'il termine par dire ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je relis, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimés, je l'espère que par la grâce de Dieu, nous sommes encouragés ce matin par encore ces mots de l'apôtre Paul, que nous soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, en n'étant plus des fils de ce monde, mais en étant des fils du royaume, des fils libres, des enfants libres, et que nous puissions communiquer cette vie, communiquer cette liberté à tous ceux qui en ont besoin, à tous ceux qui y aspirent. Et c'est pas « moi je suis mieux que les autres », « moi je suis pas mieux » que quelqu'un qui connaît pas le Seigneur. Je suis un pécheur, j'ai besoin de Dieu. Et c'est pourquoi c'est pas une compétition, c'est pas des rôles, c'est pas des titres. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus, qu'on a besoin de connaître, et qu'on puisse ensemble travailler de mieux en mieux, qu'on marche ensemble pour effectivement se purifier comme lui-même est pur, parce qu'en lui nous avons cette espérance, que nous le verrons tel qu'il est, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté, mais puissions-nous l'attendre avec persévérance, avec foi, avec amour, avec zèle. Et c'est pourquoi Jésus a dit et a annoncé d'avance ces choses en disant, l'amour du plus grand nombre se refroidira, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi lorsqu'il viendra sur la terre? Parce qu'il savait que nous vivrions les temps dans lesquels nous sommes, où nous sommes une génération qui ne croit qu'en ce qu'elle voit, qu'on puisse ensemble dire en Église, mon Seigneur et mon Dieu, et que du coup, effectivement, soient ces heureux qui croient sans avoir vu et qui savent que le Christ est ressuscité et qu'il est vraiment ressuscité et qu'il vient bientôt, alors qu'on puisse se préparer à cette rencontre, à ce jour, le plus grand jour, le jour le plus important de notre vie, c'est cette rencontre. Et j'ai envie de dire en même temps, le jour le plus important de notre vie, c'est aujourd'hui. Parce que s'il faut cet après-midi, il pourrait nous arriver un souci, il pourrait nous arriver quelque chose. Où en sommes-nous maintenant? Où en sommes-nous à l'heure, à la minute où on parle, à la seconde où nous sommes? Et c'est pourquoi la parole dit, si on entend sa voix, si on entend cette parole, eh bien on n'endurcit pas nos cœurs, mais on l'ouvre tout grand et on reçoit encore la vie de Christ qui fait qu'il peut m'arriver quelque chose dans une minute. Je sais où je vais, je sais en qui j'ai cru. Amen.